aux objets précieux, sacrés de l'Église de cette façon-là, c'était un objet de scandale dont vous auriez peine à vous représenter la profondeur et la violence. Donc l'Occident a été tout de suite mis en état de choc par cette façon de procéder. C'est une chose. La deuxième chose, c'est que je suis en 840, hein, j'en démords pas. La deuxième chose, c'est que les victimes, si j'ai été clair, et je l'ai été clair parce que c'est pas contestable, les victimes majeures de ces incursions et de ces déprédations, c'était des clercs, des prêtres, des moines ou des affidés. Les clercs étaient les seuls qui sachent écrire à cette époque-là. Donc c'est eux qui ont consigné par écrit les relations de ces incursions-là. Chronique anglo-saxonne, 842. Ils ont tué tant de gens, hommes, femmes, enfants et vieillards compris, qu'ils ont jeté dans l'Ours. L'Ours, c'est le nom de la rivière qui passe du côté de York, là-bas, si vous voyez ça. Ils ont jeté les cadavres de la rivière de telle façon que la rivière est sortie de son lit. Ou bien, chronique irlandaise, 912. Ils sont arrivés, c'était pour mettre, ils ont remonté le Shannon cette fois-ci, c'est la rivière qui passe à Dublin. Ils sont arrivés avec plusieurs centaines de bateaux. Tant de bateaux que l'on ne pouvait plus apercevoir l'eau du Shannon qui était cachée par les voiles. On a fait des recherches depuis. On sait qu'une flotte entre guillemets viking, quand elle atteint 10 bateaux, c'est déjà pas mal. Or, dans les chroniques établies par les moines, ça va chercher des centaines. Un bateau coûtait les yeux de la tête. Les boy scouts norvégiens, danois, de temps en temps, essayent de reconstituer un bateau viking. Il faut une fortune, tellement c'est compliqué, des artisans ultra qualifiés, des matériaux de premier ordre. On n'imagine pas qu'une flotte ait jamais compté 200 ou 300 navires. Voilà. Les clercs sont les grands responsables. J'espère que je suis clair. Il y a la conjonction de deux phénomènes. Le premier, c'est cet état de choc ou de scandale dans lequel la chrétienté s'est trouvée mise à cause du phénomène viking. Le deuxième, c'est que les seuls témoins sérieux qu'on ait eus, c'était les moines, c'était les clercs, c'est-à-dire c'était les victimes majeures de ce genre de déprédation. Je dis ça parce que je suis le premier à m'être servi dans mes ouvrages d'un autre type de témoins. J'ai vous parlé tout à l'heure des Varegs. Les Vikings, quand ils opèrent à l'ouest, c'est-à-dire dans nos pays, à nous, ça s'appelle Vikings. Ne le répétez à personne. Quand ils opèrent à l'est, c'est-à-dire le long des fleuves russes et jusqu'à Byzance, ils s'appellent Varegs. Là, les rives des fleuves russes, la Neva, Don, Dniepr, Dniestr, ces rives étaient occupées par des Arabes des deux califats. Vous savez, il y avait deux califats, un califat à Cadix et un autre à Bagdad. C'était des nations très organisées, très militaires, très pugnaces, et qui ne badinaient pas avec ce genre de choses. Les Vikings ne se sont jamais, les Varegs, ne se sont jamais attaqués aux Arabes. Il y avait une sorte de coexistence pacifique entre les deux nations. Or, les Arabes avaient, c'était deux États, deux puissants États, j'y reviens là-dessus. Les Arabes avaient leurs diplomates, comme aujourd'hui, et les diplomates faisaient des rapports, comme nos diplomates aujourd'hui, des rapports annuels ou bisannuels. Et nous avons gardé ces rapports-là. Et les diplomates arabes vous décrivent les Vikings ou les Varegs d'une façon tout à fait différente de la manière dont procèdent les clercs occidentaux dont je suis en train de vous parler. Si vous étudiez le portrait que les diplomates arabes font des Varegs ou Vikings, c'est pareil, vous constatez que vous avez une image radicalement différente de celles que vous donnent les clercs occidentaux, puisque les Arabes, eux, n'étaient pas concernés directement par ces incursions-là, et que les Varegs, les Vikings, ipso facto, ne s'en prenaient pas aux populations locales. Alors, si vous comparez les deux types de témoignages, vous voyez bien que la relation n'est vraiment pas compatible. Les relations ne sont pas compatibles, et pas compatibles d'une façon vraiment radicale. Il est clair que les Vikings ont tout de même mis l'Occident en condition, nous dirions aujourd'hui. qu'ils l'ont terrorisé, qu'ils ont constitué un phénomène durable. Durable. Vous êtes encore persuadé que le viking est une sale brute, très sexuée, très musclée et irrésistible. Regardez les bandes dessinées, regardez les films américains qui, dans ce domaine comme dans tous les autres, nous font un tort énorme au sujet qu'ils traitent. Lisez la mauvaise presse et vous verrez bien que l'image que je suis en train de dresser reste vraie. Il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus, il y a eu un match, une de mes passions, c'est le football. Il y a eu un match France-Danemark dont tout le monde savait que ce serait la France qui gagnerait parce que le Danemark était vraiment inférieur. Et mon fils est allé assister à ce match, un de mes fils est allé assister à ce match-là. Donc il a commencé à claironner, or, les Français vont gagner. Et son interlocuteur lui a dit, on ne sait jamais, c'est des Danois, c'est des descendants de Vikings. Vous voyez, ça dure. D'ailleurs, j'habite à Saint-Maur-des-Fossés, c'est dans la banlieue sud-est de Paris, et les Vikings ont tellement harcelé l'abbaye de Saint-Maur, qui se trouve à côté de Saumur, au bord de la Loire, pas très loin de Nantes, que les moines en ont tué assez. Ils ont pris les reliques de Saint-Maur et ils les ont transportées là où j'habite, c'est-à-dire à Saint-Maur des Fossés, parce que c'était marécageux. Donc, autrement dit, il ne faut pas diminuer l'ampleur de ce phénomène-là. Ça a existé. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour poser le problème. Alors, qu'est-ce qu'un viking ? Je vais répondre en une phrase dont chaque terme est pesé et que je vais développer maintenant. Un viking est un commerçant de longue date. Un commerçant, le phénomène viking commence autour de l'an 800, un commerçant qui existe en tant que tel, c'est-à-dire en tant que commerçant, depuis à peu près 450, donc depuis au moins 3 siècles et demi. Un commerçant de longue date que la conjoncture, la situation historique a amené à se transformer en pillard quand c'était possible, là où c'était possible, mais dont le but premier n'était pas de manifester sa supériorité militaire, il n'a jamais été militaire. Il n'a jamais été susceptible de s'organiser de façon militaire. Son but premier, c'était de gagner de l'argent, de devenir riche. Aplacier fjaur, ça se dit en vieux norrois. Par tous les moyens possibles. Le commerce, le pillage quand c'est possible, le mercenariat, ils sont beaucoup engagés comme mercenariat, le service d'autrui, gagner de l'argent. C'était des pays pauvres. Les pays scandinaves, c'est difficile de dire ça aujourd'hui, mais c'est ainsi. C'était des pays très pauvres, vous diriez aujourd'hui sous-développés. Vous savez, Suède, Danemark, Norvège étaient encore sous-développés du côté de 1850. Enfin, sous-développés avec nuance, mais ce n'étaient pas des pays riches. C'est très curieux de dire ça en 2007, parce qu'aujourd'hui ils sont à la pointe de la modernité. On les donne pour modèle au monde entier, pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. C'est parce que la situation a complètement changé et que nos ressources sont plus les mêmes. Mais le sol est très ingrat dans ces pays-là. Sauf le sud du Danemark, ils ne sont pas propres à l'agriculture, qui était la ressource majeure de l'Occident à cette époque-là. Industrie, il n'y en avait pas. Un peu de bois, et c'est tout. La seule ressource, c'était la pêche. Et la pêche connaît des aléas que vous connaissez tous, vous, et dont ils étaient victimes par définition. Quelle était leur seule ressource possible ? Leur seule ressource possible, c'était le tiers secteur, c'était le commerce. S'ils ne commercent pas, ils meurent sur place. Expérience faite d'ailleurs, notamment dans le nord de la Norvège, du côté de l'an 700 par là. Donc ils sont devenus commerçants par la force des choses. C'est la première constatation. La deuxième constatation, c'est que regardez une carte du Nord, vous en avez une sous les yeux, là. Ça aussi, c'est difficile à imaginer aujourd'hui. Pays scandinaves ont été très longtemps des contrées marécageuses. Ça ne vous dit plus rien parce qu'ils ont tout asséché, ils ont fait un énorme effort pendant un siècle, et aujourd'hui, ça ne saute plus aux yeux. Mais ce sont des pays qui vivent en symbiose forcée avec l'eau. L'eau de la mer, l'eau des rivières, l'eau des cascades, l'eau de la neige et l'eau des marécages. Autrement dit, la seule façon de se déplacer, de survivre, c'était de dominer cet élément aquatique. C'est pour ça qu'ils ont mis au point par force, dès le 4e siècle, un véhicule capable de les transporter pour aller faire leur commerce, donc un bateau. Le bateau viking, dont je vous parlerai tout à l'heure, existe in nuce, en essence, dès le 4e siècle. On a trouvé à Nyhavn, c'est au Danemark, dans les argiles bleues qui conservent tout parce qu'elles renferment du tanin. Le tanin empêche les matières organiques de se décomposer trop vite. On a retrouvé un bateau qui est l'ancêtre des bateaux vikings, tout simplement. Il a déjà toutes les caractéristiques majeures des skeis, des knerr, etc. Donc, obligés de commercer pour survivre et de commercer en utilisant leur bateau, qui était leur seul véhicule. Par voie de terre, pas question, c'était quasiment impossible à cause de l'omniprésence de l'eau. Donc, un commerçant qui a pratiqué cette activité-là dès le 4e siècle par la force des choses. Et il se trouve que autour, donc on peut dire que ce commerce a débuté vers, mettons, l'an 500. Je ne me bats pas avec les dates parce que nous n'avons pas de référence indubitable, sûre. Disons qu'autour de l'an 500, le mouvement viking prend peu à peu tournure, mais il ne s'appelle pas viking à cette époque-là. À cette époque-là, il s'appelle tout ce que vous voudrez, danois, suédois, norvégien, islandais, nordique, scandinave, pas islandais, non. Autour de l'an 500. Et puis, autour de l'an 800, ça c'est une date clé, deux phénomènes se conjuguent. Le premier, c'est le délabrement de l'Empire carolingien. Vous avez tous une carte dans la tête, il faut avoir une bonne carte de géographie dans la tête pour me suivre, hein, avec mes excuses, complètement hypocrite. Autour de l'an 800, l'Empire carolingien, qui était beaucoup trop vaste, beaucoup trop ramifié, beaucoup trop diversifié, et qui était donc ingouvernable, tout à fait, se délabre. Il se partage entre les fils de Charlemagne, en plus, qui, bien entendu, en pareille circonstance, n'ont pas de souci plus cher que de se faire la guerre les uns aux autres, au lieu de s'unir, si bien que, brusquement, le viking découvre que, dans bien des cas, un bon coup d'épée à tranchant double ou de hache à fer large conclut les affaires beaucoup plus facilement que d'interminables palabres qui peuvent durer des jours. Je ne suis pas en train de dire qu'il devient pillard par la force des choses. Je suis en train de dire que les circonstances favorisent des prédations. D'un autre côté, autour de l'an 800 également, alors là, je suis un disciple d'un très grand historien belge qui s'appelle Henri Pirenne, qui a écrit en 1932 un livre qui s'appelle Mahomet et Charlemagne, dont je m'inspire beaucoup. Pirenne établit une théorie qui est que l'Occident ne peut pas, d'Occident, nous autres, ne peut pas se passer d'échanges commerciaux est-ouest ou ouest-est. Pas nord-sud, ni sud-nord, est-ouest ou est ou ouest-est. Et pendant des millénaires, l'axe de ces échanges s'est situé en Méditerranée. Ce qui fait que la Méditerranée, comme par hasard, pendant des millénaires, a été le théâtre de civilisations et de cultures extrêmement brillantes, dont vous vivez encore, les touristes parmi vous. Vous allez en Égypte, vous allez dans le Moyen-Orient, dans la mesure où il est accessible en ce moment. Donc, Palestine, Israël, Irak, Iran, ça s'appelait Assur, ça s'appelait Sumer, ça s'appelait Babylone, etc. En Grèce, puis en Italie, c'est-à-dire Rome, c'est ces nations-là qui ont développé des civilisations extrêmement brillantes, qui ont dominé le monde pendant des millénaires. Ben, ça a duré jusqu'à autour de l'an 800, parce qu'autour de l'an 800, le phénomène arabe est né. Et les Arabes, eux aussi, ont développé une flotte redoutable et ils ont coupé cet axe est-ouest ou ouest-est. Ils ont brusquement interdit ce type de circulation. Or, je répète que l'Occident ne peut pas se passer de ce type d'échange. Alors l'axe est remonté. Il est remonté au complexe Baltique, mer du Nord, Manche et un petit bout de l'Atlantique. Et il se trouve que sur cet axe-là, il y avait deux nations de très grands navigateurs, d'une part les Scandinaves et d'autre part les Frisons. Si j'avais beaucoup de temps, il reste des études à faire là qui n'ont pas encore été faites. C'est mes successeurs qui les feront, j'espère bien. Il se trouve que les Frisons sont une nation de navigateurs hors pair qui ont peut-être été responsables de l'évolution de l'Europe dans le sens où elle existe aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, la Hollande, 9 millions d'habitants, est un pays très très peu peuplé et qu'il domine le commerce international, notamment sous l'angle abstrait du commerce, etc. Bon, des finances, etc. Alors, cet axe est remonté et il se trouve que du coup, les Vikings dont je suis en train de parler, qui étaient de toute façon des nations de commerçants de longue date, se sont trouvés promus à un rôle de vecteur, faut dire, d'échangeur qu'ils n'avaient jamais eu jusque-là. Il y a donc ce que vous appelleriez, vous, une promotion. La conjonction de ces deux phénomènes, le délabrement de l'empire carolingien, la promotion due à la montée de l'axe dans le nord, a hissé au premier plan de la scène internationale ces nations-là, suédois, danois, norvégiens, puis par la suite islandais. C'est clair jusqu'à présent? Personne ne sombre dans le sommeil? Bien blagué, continue. Je vais vérifier mes vues en faisant un tout petit peu d'étymologie. Le viking, quand il opère à l'ouest, si j'ai été clair, s'appelle Vikingur, en viennois. Quand il opère à l'est, donc sur les fleuves actuellement dits russes, s'appelle Væringr, Vareg en français. Le mot Vikingur, on a longtemps cru, et ça c'est aberrant, c'est aussi pour les journalistes d'arrive gauche, on a longtemps cru que ce mot avait une étymologie qui provenait du mot Vikur, qui est la baie dans la côte, vous savez, la baie. Plus personne ne croit à ça, on a établi que le mot Vikingur revient à un mot qui en latin s'appelle vicus, vicus, V-I-K-U-S, que vous trouvez dans sandwich, sandwich in English, que vous trouvez dans Quintovic, que vous trouvez dans Londonvic, qui est l'ancien nom de Londres, etc. Le vicus, vicus, c'est le nom qu'on donnait à un comptoir marchand saisonnier, c'est-à-dire à un petit port où il y avait surtout des entrepôts et où les marchands se rendaient de l'un à l'autre pour débarquer leurs marchandises, pour les échanger contre d'autres, pour trafiquer leurs esclaves, on va parler de ça. Donc, pour se livrer à leurs opérations mercantiles. Le viking, c'est un homme qui va de comptoir marchand en comptoir marchand. Bon, maintenant, si vous passez à l'est et que vous préférez parler de Væringr, donc Vareg, ce mot Vareg est fabriqué sur le mot Vara, V-A-R-A, qui est la marchandise. Les Vareg, ce sont les gens qui transportent ou qui font commerce de marchandises. Vous voyez qu'il y a une remarquable conjonction entre les deux acceptions que prend le mot. Voilà, ce que je veux dire dans mon premier moment, c'est que c'était des commerçants. Que autour de l'an 800, une double conjoncture se soit manifestée qui ait permis à ces commerçants de devenir d'aventure à l'occasion des pillards, des prédateurs, d'accord, c'est une autre affaire, mais foncièrement, ce sont des marchands. Et d'ailleurs, dès que les choses se compliquent, dès qu'ils constatent qu'ils n'auront pas la suprématie, ils reviennent à leur balance repliable, ils reviennent à leur poids et mesure, ils reviennent à leur balance à peser l'argent haché, ils n'insistent pas. En revanche, s'ils trouvent une bonne occasion, et ça on en a des exemples, mais je voudrais savoir, c'est Michelet le premier qui avait découvert ça, grand historien que vous connaissez tous, je ne sais pas pourquoi cette piste, c'est moi qui l'ai reprise, a été abandonnée d'aventure, s'ils peuvent s'engager pour de l'argent auprès d'un prince qui a besoin de soldats, auprès d'un grand de ce monde dont les finances doivent être renflouées, ils ne manquent jamais l'occasion. Le but, c'est de rentrer chez eux riches. Et dès qu'ils sont assez riches, soit que leur bateau est rempli de bonnes marchandises, soit qu'ils ont fait commerce de façon suffisante et que leur bourse est pleine, ils rentrent. Ils rentrent, ils construisent des maisons, ils s'installent, ils vivent bien. Là-dessus, les chroniques ne tarissent pas. Les chroniques, j'ai pas dit les sagas. Hein. Les sagas, dont je suis spécialiste, comme vous le savez, sont des textes des 12e et 13e siècles. C'est-à-dire aux dates où sont écrites les sagas, le dernier viking est sec. Vous n'avez pas idée, il est dans sa tombe, il n'existe plus. Donc ne prenez pas les sagas pour des documents historiques. C'était une parenthèse. Des commerçants. Il se trouve que des commerçants de longue date. Il se trouve qu'on connaît très très bien, et je vais vous les décrire pour votre édification, on connaît très bien leurs itinéraires, leurs routes, comme ils disent. On sait très bien d'où ils partaient et pourquoi. En gros, quatre routes. Une route du nord, une route de l'ouest, qui admet des variantes, une route du sud et une route de l'est. Je vais vous les décrire. Et ce qu'ils y faisaient. La route du nord d'abord, Norðurvegur, ça se dit en vieux norrois. Ça ne veut pas dire défense de fumée, ça veut vraiment dire route du nord. Vous partez du sud de la Suède. Il n'y a pas de fil, hein. Bon. Vous partez de Paris, c'est du sud, aujourd'hui c'est le sud de la Suède, mais ça c'était au Danemark à l'époque, la ville de Lund, ou la ville de Aarhus qui est par ici, et vous remontez, vous faites escale dans l'île de Gotland, qui est une des îles les plus passionnantes, qui est peut-être le berceau de cette culture-là. C'est peut-être de là que viennent les Goths, qui sont... peut-être si j'ai le temps, j'en reparle. Vous montez tout le long de la Baltique, vous allez jusqu'au fond du golfe de Botnie, là-haut, vous redescendez par le golfe de Finlande et le golfe de Riga, vous redescendez et vous revenez jusqu'à Bornholm, qui est ici. Ça s'appelle la route du Nord. Norðurvegur. Ça ne vous dit rien? C'est une route passionnante parce que ils allaient s'approvisionner le long de cette route dans les deux marchandises qui sont leurs produits majeurs. Je précise que le bateau viking est un petit bateau, 30 mètres maximum, qu'il n'est pas capable de transporter des marchandises lourdes en grande quantité. C'est pas un cargo. C'est un bateau pour marchandises rares en petite quantité. Ce que je veux dire, c'est que les Vikings étaient des commerçants de luxe. Ça n'était pas des grands armateurs. Alors, le long de cette route du Nord, on trouve de l'ambre. Toutes les dames qui sont ici ont sûrement un collier, un bracelet, une bague d'ambre. Bon, vous trouvez ça très joli, n'est-ce pas? L'ambre, c'est de la résine fossile. Comme il y a des conifères tout au long de l'itinéraire que je viens de décrire, il y avait de l'ambre tant et plus. Il y en a encore, d'ailleurs. Bon, mais c'est pas ça, c'est que l'ambre, en plus, si vous avez un caillou d'ambre, frottez-le sur un vêtement de laine. Et il se trouve que l'ambre a des propriétés électromagnétiques. Vous frottez sur un petit caillou de laine, et sur un petit fragment de laine, et le caillou d'ambre en question peut attirer des brins de paille, des petits bouts de papier, des choses comme ça. Bon, ce sont des vertus électromagnétiques. Vous qui savez tout et qui êtes un individu parfaitement scientifique, ça vous fait ricaner ce que je suis en train de dire. Pour le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, si l'ambre avait des vertus pareilles, c'est que c'était quelque chose de magique. Donc l'ambre avait une valeur extraordinaire. La deuxième marchandise, c'était les peaux et fourrures. Martre, zibeline, vert, petit gris, ours. Il y en a tant et plus tout au long de cet itinéraire. Plus vous allez vers le nord, plus vous en trouvez encore aujourd'hui. Bon, j'ai pas besoin d'insister pour que vous compreniez que c'est une marchandise extrêmement précieuse. Pas seulement pour vous faire des beaux manteaux, des beaux habits, pas seulement pour mettre sur le sol afin de couvrir le plancher, mais aussi pour mettre sur les murs. C'est très décoratif. Alors, il y avait tout au long de cet itinéraire, il y avait des peuplades de Sam. S-A, accent circonflexe, M-E-S. Vous ne dites pas Lapon, hein. Lapon est un mot péjoratif, argotique, qui vient du suédois lapsk, qui veut dire quelque chose comme déguenillé, aïeuneux, SDF, si vous voulez, n'est-ce pas? Les Suédois, dont la modestie a toujours été la vertu majeure, méprisaient les Lapons. Ils les ont appelés Lapons. Dites Sam, c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes. Ça veut dire nous, nous-mêmes, les hommes, quoi. Alors, les Sam étaient grands éleveurs et détenteurs de peaux et fourrures. Alors, les Vikings faisaient commerce avec les Sam pour remplir leurs bateaux de peaux et fourrures. Ils arrivaient donc, ils revenaient à leur point de départ, et ils allaient ensuite, sur les routes que je vais décrire maintenant, vendre leur ambre, vendre leurs peaux et fourrures. Marchandises extrêmement appréciées dans tout l'Occident. Il y en a dans tous les musées du Moyen-Âge, en France et ailleurs. Route du Nord. Deuxièmement, la route de l'Ouest, Westerweg. C'est celle que vous connaissez le mieux, c'est celle qui vous intéresse le plus. Elle admet de nombreuses variantes. La première, c'est Plaine Ouest. Oui, alors il me faudrait une carte complète, mais je ne l'ai pas. Vous partez d'ici, là, du côté de la ville de Bergen, là où c'est écrit Harald Haarfager, là, vous voyez. Et vous allez Plaine Ouest. Et vous tombez mathématiquement dans une région qui est aujourd'hui occupée centralement par la ville de York. Ça vous dit quelque chose? Oui? Non? C'est de là que vient New York, hein, figurez-vous. York, encore aujourd'hui, est la capitale d'une province anglaise qui s'appelle Danelaw, la province qui subit la loi des Danois, Danelaw. Danelaw, c'est une province qui s'étend à peu près une trentaine de kilomètres au nord de Londres et qui va jusqu'au canal calédonien. Vous voyez, seulement pour la moitié est de l'Angleterre. Ça a été très longtemps une province occupée par les Norvégiens et surtout par les Danois, sous l'autorité d'un certain Eric à la hache sanglante. C'est des noms qui vous disent quelque chose. Eric Blåøksa. Et il a institué là une sorte de d'État. Scandinave, si j'ose dire. Ce Danelaw durera très longtemps. Durera en fait jusqu'en 1066, ça doit dire quelque chose, 1066. Premier qui ne sait pas, se suicide. 1066, 14 octobre 1066, c'est la date où Guillaume le Conquérant a battu Harold de Wessex à Hastings, et s'est emparé du royaume d'Angleterre. Ce n'est plus un phénomène viking, ça. Hein. C'est un phénomène normand de Normandie. Ça échappe à l'histoire viking. Enfin, conventionnellement, on marque la fin de l'histoire viking à la bataille de Hastings. Alors, jusqu'en 1066, ce Danelaw dont je suis en train de parler a été une province dano-norvégienne, appelez ça comme vous voudrez. Qu'est-ce qu'on trouvait en Angleterre? Des beaux tissus. On trouvait en Angleterre des belles femmes. Ils étaient très passionnés de belles femmes. Les Scandinaves, c'est pas que les leurs étaient moches, hein, mais voilà, elles étaient probablement plus faciles en Angleterre. Elles n'étaient pas aussi laides à l'époque que maintenant, vous voyez, c'est ça la différence. Le puritanisme n'était pas passé par là, semble-t-il. Ils trouvaient aussi des objets, des ustensiles, des objets à tout faire. Ustensiles de cuisine dont ils ne disposaient pas chez eux, etc. Voilà. Maintenant, si vous montez un petit peu plus haut, il y a une variante de la route de l'Ouest. Alors, vous partez du même endroit ou de plus haut en Norvège, de Trondheim. C'est écrit là, vous voyez ça, Trondheim, juste au-dessus de fin 9e siècle. Vous voyez, Trondheim. Cette ville existe toujours. Vous partez de Trondheim et vous allez plein ouest. Vous arrivez dans les îles nord-atlantiques. Orcades, Shetland, Hébrides. Vous redescendez un petit peu sur l'île de Man. C'est l'île qui est coincée entre l'Irlande et l'Angleterre. Vous y êtes? Au passage, vous avez accroché la corne nord-ouest de l'Écosse. Vous continuez, vous accrochez la corne nord-est de l'Irlande. Vous faites encore un bond, vous arrivez au Féroé. Féroé, c'est eux qui ont découvert un ensemble d'îles où ils ont amené des moutons. D'où le nom de Féroé, Færøyar, c'est les îles aux moutons. Vous faites un bond, vous êtes en Islande. Ils ont découvert l'Islande, pas découvert, mais enfin, ils ont colonisé l'Islande à partir de 874 jusqu'à 930. Ils ont établi un état sans équivalent ailleurs dans le monde. C'est pas mon sujet aujourd'hui. De l'Islande, ils sont allés au Groenland, qu'ils ont découvert et colonisé. Et du Groenland, ils ont probablement découvert l'Amérique du Nord, enfin l'Amérique du Nord, le Labrador et ou Terre-Neuve, pas autre chose. Enfin, il y a, aujourd'hui, on ne doute plus, les spécialistes comme votre serviteur ne doutent plus qu'ils ne soient allés en Amérique du Nord. Ils ne l'ont pas colonisé, ils ne l'ont pas habité. On a répondu des quantités de fariboles autour de la question, Vinland, etc., etc. Je vous ennuie pas avec ça. Mais il ne fait pas de doute qu'ils y sont allés. C'est la grande variante nord de la route de l'Ouest. Alors, là, ils ont trouvé, et ils ont commercé d'à peu près tout ce que vous voudrez, là, sur cette route-là. En particulier, moutons. En particulier, bovins. En particulier, tissus. Ce tissu particulier qu'ils faisaient avec la laine de leur mouton angora, qui s'appelle Vavanrol, Vavmel, etc. Troisième variante, et ça c'est la nôtre, mesdames et messieurs. Vous partez... Debout, cher ami. Vous partez de Ribe. Ribe, qui était une des grandes villes de l'époque, là, qui est au Danemark. Et vous descendez, vous... Et vous faites du cabotage. Le bateau viking était capable d'affronter la haute mer et était capable de traverser l'océan. Mais je dirais, par vocation, il était plutôt fait pour faire du cabotage. Ça s'entend quand on le voit. On comprend très bien que c'est pas par définition qu'il est capable d'affronter la haute mer, quoi qu'il en ait été capable. Alors, vous descendez le long des côtes de Danemark, vous faites du cabotage le long des côtes de ce qui s'appelle aujourd'hui la Hollande, la Belgique, la France, vous allez jusqu'en Bretagne, où ils se sont installés durablement, vous descendez le long des côtes de France, en particulier en insistant sur toute la série d'îles qui longent la côte de France, Ré, Noirmoutier, Oléron, etc. Vous continuez, vous longez la côte d'Espagne. Côte d'Espagne, ils n'ont jamais vraiment abordé. Ils ont essayé deux ou trois fois de remonter le Guadalquivir, mais en Espagne, il régnait un sultan arabe, justement, puisque vous en parlez tout à l'heure, qui s'appelait Abdelrahman II, et qui ne badinait pas avec l'amour, celui-là. Les deux ou trois premières incursions qu'ont faites les Vikings en Espagne, ils ont été écrasés à plate couture. Ils n'ont jamais plus assisté. On continue, on passe au détroit de Gibraltar, qu'ils connaissaient très bien, ils appelaient ça Nierva Sunt. On remonte le long de la côte d'Espagne, le long du sud de la côte, le long de la côte sud de France. Ils ont, évidemment, le Rhône n'est pas remontable, comme vous le savez, hein. Il n'est pas navigable. Mais ils sont quand même passés en Camargue, on redescend tout le long de l'Italie, on fait escale sanglante à des petites villes comme Pisa, ou Luna, ça s'appelait. On passe par le détroit de Messine entre la Sicile et la pointe de la Botte, on remonte au long de la Grèce et on aboutit à Byzance. Byzance, qui était la grande ville de l'Occident à cette époque-là. Plus importante que Rome. Je suis autour de l'an 1000 en ce moment, hein, 900, 1000. Ça a été le point de chute, si je peux dire, obligé des Vikings à cette époque-là. Cet itinéraire est intéressant parce que tout ce qui avait cours en Occident à cette époque-là se rencontrait, notamment l'étain. L'itinéraire que je viens de vous décrire recoupe deux embranchements de la route de l'étain. Comme vous savez, l'étain était un métal plus précieux que l'or et l'argent à l'époque parce qu'il est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible et on avait des quantités de beaux objets. C'est un métal qui est très malléable, très facile à plier. Vous n'avez qu'à vous prendre les deux musées, vous en verrez tant et plus des objets en étain du Moyen-Âge. Donc de l'étain, des beaux tissus, du blé, du miel qui leur manquait beaucoup, de l'argent, du miel, puisqu'il n'y avait pour ainsi dire pas de possibilité de faire du sucre dans le Nord, alors que chez nous non plus d'ailleurs, hein, on ne savait pas le faire le sucre. Mais notre sucre au Moyen-Âge, c'était le miel, tout simplement. Bon, et puis des objets précieux, des bijoux, beaucoup de bijoux, ils étaient très amateurs de bijoux, ou bien des belles armes. Leurs armes n'étaient pas de bonne qualité. C'est même quelque chose d'amusant, ça, mesdames et messieurs. Ils sont en train de se battre entre eux, et il faut qu'ils s'arrêtent toutes les cinq minutes pour redresser sous leur talon la lame de leur épée qui est courbée, vous voyez. C'est pas très héroïque, c'est pas très bon pour les films américains et les bandes dessinées, mais c'est comme ça. Alors, ils allaient chercher des lames, des bonnes lames, en Rhénanie ou bien en Italie, où il y avait des armuriers réputés. Ils aboutissent à Byzance. Je vous en parle tout à l'heure. J'ai pas fini avec la route de l'Ouest. Il y a une troisième variante qui va à la verticale. Alors, vous repartez comme je montrais tout à l'heure, du sud de l'actuelle Suède, Lund, ou Russe, ou bien du sud du Danemark, et vous descendez à la verticale. M'intéresse cet itinéraire-là, pourquoi ? Tout à l'heure, j'ai commencé en vous parlant de la terreur qu'inspiraient ces gens-là. Je vais avoir à vous dire que c'était des porteurs d'une culture et d'une civilisation de premier ordre et qu'il est parfaitement risible de les prendre pour des barbares. Ce serait exactement l'inverse. Mais vous avez entendu parler des Cimbres et des Teutons, qui étaient des tribus danoises qui sont descendues du Danemark juste au début de notre ère pour aller mettre Rome à sac. Vous avez entendu parler des Vandales, qui étaient probablement des Suédois, Vendel. Vous avez entendu parler des Lombards, Longobardi, qui étaient probablement des Norvégiens. Vous avez entendu parler, ça j'espère bien, des Burgondes, qui étaient des Danois, qui venaient de Burgundarholmur, qui est un îlot, il est là. Là. Le voilà. À moins qu'il soit venu de Norvège, du côté de Bergen. Ça s'appelle Borgund. Peu importe, c'était des Scandinaves. Ces gens-là sont descendus pour des raisons de famine, pour des raisons de survie de la Scandinavie, plein sud, et sont allés donc jusqu'à Rome. Il est probable que c'est... J'ai oublié des gens... Oui, les Burgondes, enfin pardon, ont donné leur nom à la Bourgogne, hein, comme vous le savez. C'est là qu'ils sont installés définitivement. J'en ai oublié bien d'autres, les Hérules, les Chattes, les Haricas, etc. Tout ce que vous voulez. Ces gens-là étaient probablement des barbares, surtout jugés avec des yeux de latins, de romains. Alors, je pense que les Vikings, qui sont la seconde vague, comme aurait dit un de mes amis qui vient de mourir, Lucien Musset, de ces invasions, je pense que les Vikings ont souffert du prestige sulfureux qui entourait cette première vague de barbares venus du Nord. J'espère que je suis clair. On a transféré sur les Vikings qui, en fait, convenaient à ces barbares-là. Alors, ce qui est sûr, parce que je suis dans la route de l'Ouest, du Sud, pardon, la variante de la route de l'Ouest que j'appelle route du Sud. Ce qui est sûr, c'est que ces tribus-là, c'est les Vikings, pardon, en utilisant le Rhin et toutes ses ramifications, en descendant, en faisant un peu de portage, parce que ce bateau viking était portable à deux équipages, il pouvait passer dans le nord de l'Italie, ou dans de la région des Alpes, chez nous, et continuer leur déprédation là, pour aller jusqu'à Rome, dont ils étaient familiers. Ou ils s'engageaient comme mercenaires, où ils ne pillaient pas. Ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas assez nombreux. Ce serait la route du Sud. Et alors, il reste la route dite de l'Est, dont je suis le premier à avoir parlé en France dans mes ouvrages. Et si j'ai une fierté limitée, elle est là. On va vous parler de la route de l'Est, dès que j'ai bu un petit peu de vodka. Vous partez, la route de l'Est est surtout une spécialité suédoise. Vous partez d'où vous voudrez en Suède, vous faites escale à Gotland, et vous arrivez dans le fond du golfe de Finlande. Là, vous empruntez la rivière qui s'appelle Neva. Vous descendez la Neva. Vous passez à une ville qu'ils appelaient Bulgare et qui s'appelle aujourd'hui Smolensk. Et vous arrivez par le Don et par le Dniepr et par le Dniester. Au nord de la mer Noire. Vous la voyez? On a retrouvé de leurs traces partout, hein, des objets, l'archéologie, et qui est ma maîtresse, pratiquement ma seule maîtresse. Je ne suis pas un textualiste pour ce sujet-là. On a retrouvé des vestiges vikings partout par là. Vous n'oubliez pas qu'on les appelle Varegs, hein. Donc, on est au nord de la mer Noire, vous traversez la mer Noire à la verticale, en face il y a Byzance. C'est une de leurs routes les plus sûres. Et là, sur cette route-là, ils faisaient le trafic, leurs marchandises, c'était des esclaves. Et là, j'espère vous enseigner quelque chose. Les Vikings ont été les grands esclavagistes des 9e, 10e et 11e siècles. Évidemment, ils raffaient des esclaves un petit peu partout. Ça n'était pas l'image des esclaves que vous collectez ou colportez d'après vos lectures classiques latines ou d'après les films américains que vous avez pu voir. C'était pas ce type d'esclave. L'esclave à la Scandinave n'était pas taillable et corvéable à merci. Ce n'était pas une marchandise. C'était un homme à moitié libre. Il n'était pas libre, c'est tout. Pas complètement libre. Mais il avait une grande possibilité de se racheter, moyennant finance, bien entendu. C'est un univers qui est régi par la finance, exclusivement, si je suis clair. Et il retrouvait sa condition d'homme libre. Mais enfin, la route de l'Est, c'est premièrement la route du trafic des esclaves. Ils raffolaient des esclaves tout le long de leur séjour et ils allaient les revendre à Byzance, tiens, qui est le point d'aboutissement de cette route-là. Ils vendaient beaucoup aux esclaves, ils les vendaient beaucoup aux Arabes, qui étaient grands amateurs d'esclaves, et les invendus, ils les ramenaient chez eux. En fait, l'Europe connaissait deux grands centres esclavagistes, Byzance, et au Danemark, le centre de Heerlen. Est-ce qu'il y est là? Que je vois, non, il n'y est pas. Si, le voilà. Qui est là. Donc, je pars de Suède ou de Norvège, je rafle des esclaves en cours de route, j'essaye d'aller les vendre à Byzance, les invendus, je les ramène à Heerlen au Danemark, et ceux qui me restent encore, je les ramène chez moi, où ils sont esclaves au sens de ouvriers agricoles, hommes à toutes mains, etc. C'est la route de l'Est. Elle admet une autre variante, qui est beaucoup plus passionnante encore, même point de départ, fin du golfe de Finlande, mais même point de départ, la Neva, mais au lieu d'aller vers la mer Noire, on prend plus à l'est, vers le sommet, pôle nord, si j'ose dire, de la Caspienne. Il y a une ville qui s'appelle Itil, où on a retrouvé des vestiges scandinaves en quantité, y compris des inscriptions runiques, ce qui n'est pas banal. Vous traversez la Caspienne en oblique, puisqu'elle n'est pas verticale, comme la mer morte, comme la mer noire, pardon. Et arrivé au sud, il y a une autre ville qui s'appelle Khwarezm, qui est bien attestée. Et de là, ils vont à Samarkand, Boukhara, Tashkent et Bagdad. Tous endroits où on a retrouvé des vestiges scandinaves. Il y a 2 ans, on a trouvé en Suède une bouilloire qui est évidemment un travail qui vient de Bagdad, qui a des équivalents. Bon, c'est quelqu'un qui l'a ramené là-bas. Alors, c'est intéressant cette variante-là, parce que cette route recoupe les deux grandes pistes caravanières qui venaient d'Extrême-Orient, une de Chine et l'autre d'Inde. Et en fait, on a retrouvé toujours l'archéologie, une bonne quantité d'objets qui sont chinois de cette époque-là, ou antérieure, bien sûr, ou indien de cette époque-là, ou antérieure. Donc, un trafic énorme. J'insiste un petit peu là-dessus pour montrer que, d'abord, le commerce est la préoccupation principale de ces gens-là, et d'une part, et ensuite, que il y a eu plus des échanges du troc, si ça vous chante, que du pillage stricto sensu. Voilà comment ça s'est passé. J'espère que je commence à vous convaincre de l'utilité de la démonstration de la prédominance mercantile des activités vikings. Cela dit, l'archéologie, toujours, quitte à vous en rebattre les oreilles, a exhumé dans des tombes, qui sont très nombreuses, la tenue du marchand. Le marchand viking, on sait comment il était habillé, je vous en parle, ça vous chante tout à l'heure. On a retrouvé ses instruments, sa balance, dans laquelle il pesait l'argent haché, puisque je vous en ai parlé, n'est-ce pas? Une petite merveille technique, d'ailleurs, qui se replie de façon... Les deux plateaux de cette balance sont deux demi-sphères. Tout se replie dans les demi-sphères, et ça constitue une boule de cette taille-là, que vous pouvez ranger très facilement. On a retrouvé leurs poids et mesures, on connaît très très bien, leurs règles aussi. Bref, on a même été jusqu'à retrouver un portefeuille à cases. Un peu comme ce dont se sert votre boulanger ou votre épicier. Vous savez, vous mettez les pièces de telle valeur dans une série de cases à gauche, telle autre valeur, etc. Alors, il y avait une case pour les pièces francs, une rangée pour les pièces francs, on en a retrouvé deux. Une rangée pour les pièces arabes, une rangée pour les pièces anglo-saxonnes, etc. Il casait, ça le met dans les cases de son portefeuille. C'est quand même quelque chose. Bon, Mais ce marchand n'aurait pas existé sans son bateau. Et là, il faut insister très fort. Hein. Le bateau, c'est ce qui a fait le viking. Il n'y a pas de viking sans son bateau. Tant que le bateau sera viable, le viking subsistera. Le jour où, pour diverses raisons, le bateau sera détrôné, il n'y aura plus de viking. J'espère que je suis clair. Une sorte d'adéquation absolue entre l'homme et son instrument. Bon, alors le bateau viking, vous l'avez tous vu. Vous n'avez pas, il est bien entendu que vous ne l'appelez plus Drakkar, n'est-ce pas? Je serais désolé d'être venu à Stance pour commettre des homicides. C'est donc un bateau qui n'est pas très grand, trentaine de mètres au maximum de long, symétrique par rapport à son mât central, proue et poupe relevées, la proue étant sculptée d'une tête de monstre, dont on parlera, sa coque est montée à clin vif, c'est-à-dire elle est faite de planches d'un seul tenant qui se recouvrent les unes les autres comme les tuiles sur votre toit ou comme les écailles d'une carapace de tortue. Les planches en question sont attachées les unes aux autres par des rivets ou par des chevilles de bois. Le calfatage est assuré par du chanvre trempé dans du goudron. La quille est d'un seul tenant. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile de trouver des arbres qui aient une taille suffisante pour fabriquer une quille de bateau viking. Elle est d'un seul tenant. Elle maintient le fond de l'assemblage du bordé, dont je viens de vous parler, monté à clin. À l'intérieur, elle est doublée par des couples, ça s'appelle, à intervalles 4-5 pour un bateau donné, qui maintiennent la cohésion de la coque. Au centre de la quille, donc à l'intérieur, il y a une curieuse poutre, pas très grande, une trentaine, quarantaine de centimètres, en forme de poisson percé d'un trou en son centre. C'est dans ce trou que s'emmanche un mât qui est très haut, peut aller jusqu'à 15-20 mètres, et qui porte une grande voile, carrée ou plutôt rectangulaire, faite de lait, elle est accent aiguëuse, bien entendu, cousue bord à bord, qui sont en général faites de ce tissu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il n'est pas ponté. C'est un bateau non ponté. Non ponté. Il n'a pas de cale, autrement dit. Alors, évidemment, la vie à bord n'était pas ce que vous pouvez croire, ni Astérix et les Normands non plus, mesdames et messieurs. Les hommes, le bétail s'il y en avait, les vivres, la cargaison, les esclaves, tout ça était entassé dans le bateau. Il devait régner une puissante odeur. Mes enfants m'ont offert un jour un flacon de parfum qui s'appelle Drakkar Noir. Très fort parfum, alors je ne me sers pas. Je comprends. Ça devait être utile. La vie était très... D'ailleurs, c'était une vraie aventure avec un M majuscule, une expédition viking, qui exigeait une énergie peu commune, un sens de la discipline et de l'organisation qui sont les vraies valeurs des vikings. C'est des hommes d'ailleurs, ils étaient très jeunes. On connaît, autant que nos sources puissent nous renseigner, un viking, ça ne dépasse pas 30-35 ans. Au-delà, il n'est plus capable d'assumer. Voilà. Alors, lorsque vous montez dans ce bateau-là, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, vous avez une étrange impression. C'est un bateau qui n'affronte pas la lame. Il l'épouse. Oui, c'est très difficile de vous expliquer. Nos bateaux sont en métal, ils sont rigides, même s'ils sont en bois. Ils affrontent la lame. Ils sautent par-dessus, ils l'affrontent. Lui, non. Il se plie. On a l'impression qu'il est élastique. C'est très étonnant comme sensation sous les pieds. D'ailleurs, les poètes de l'époque le comparent à un serpent, et c'est très bien vu. En effet, c'est à peu près le même type de mouvement. Le résultat est qu'il peut affronter toutes les mers possibles et imaginables. Sauf évidemment si elles sont démontées au-delà de toute expression, car on a de fréquents exemples de naufrages de bateaux vikings. Hein, n'en faites pas des surhommes là non plus. Mais c'est plutôt une merveille d'adaptation au milieu naturel. C'est ça que je voudrais dire. Ce bateau va très vite. Ce bateau possède un autre trait de génie qui est son gouvernail. Son gouvernail est une rame Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il se propulse à la rame aussi bien qu'à la, lame, qu'à la voile. C'est une rame courte, à pales courtes, un aviron à pales courtes, qui s'articule sur le côté tribord droit par une lame de cuir souple, sur laquelle la barre proprement dite est montée à angle droit. Ce qui fait qu'un enfant de 10 ans peut très bien barrer un bateau comme ça, d'une part, et que d'autre part, il est capable de virer l'œuf pour l'œuf dans des rayons absolument ridicules. Un bateau d'une maniabilité extraordinaire, avec un tirant d'eau dérisoire, il va partout, il va très vite, et c'est vraiment l'arme absolue pour l'époque. On ne peut pas le rattraper, on ne peut pas le circonvenir. C'est ce bateau-là qui a fait la fortune du Viking. Seulement, vous n'avez pas oublié qu'il n'est pas ponté. Il a un autre défaut. Il ne remonte pas au vent. S'il y a des navigateurs parmi vous, vous me suivez très bien. C'est-à-dire, s'il n'a pas un vent favorable, il bouge pas. Il faut que le vent soit favorable pour qu'il démarre. On a souvent, dans nos textes, des exemples de bateaux qui est en rade, mettons à Bergen, et qui est obligé d'attendre 2-3 semaines que le vent favorable se lève, ça ne peut pas bouger. Et ce qui est un défaut pour tous ceux qui font de la navigation, un défaut évidemment rédhibitoire. Manipuler un bateau comme ça était d'une difficulté extrême sur le plan musculaire, je dirais. Tout comme payer le coût qu'il représentait une petite fortune. Ce qui fait que un individu tout seul, même s'il était roi dans le sens que ça avait chez eux à cette époque-là, c'est pas le même que chez nous, ne pouvait guère fournir la finance nécessaire à l'affrètement d'un bateau. Alors, ils étaient, d'ailleurs, ce que je dis vaut aussi bien pour la vie courante chez eux, pour leurs pratiques agricoles, commerciales chez eux. Ils étaient obligés de pratiquer l'association. Ça s'appelle Fjellag, mettre ses biens en commun. Pour arriver à fabriquer un bateau, mettons, ou tout autre objectif, si on réussit, les bises que vous avez avancées vous seront remboursées au prorata, bien entendu. Fjellag. Il n'y a pas à s'étonner, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, les pays scandinaves soient les maîtres en matière de social-démocratie. Ils retrouvent là des habitudes ancestrales qui étaient de rigueur au début de notre ère, et en particulier à l'âge viking. Alors, la pratique du fjellag faisait que n'importe qui pouvait être viking pourvu qu'il ait un tout petit peu de bien et qu'il s'associe à d'autres, et que s'il y en avait un qui souffrait préjudice, les autres fussent là pour le défendre, pour obtenir compensation. Voilà ce que c'était que le bateau viking. Vous avez retenu que le but profond de toutes ces entreprises est lucratif. Acquérir des richesses, partout où c'est possible, lorsque c'est possible. Le meilleur exemple, c'est leur colonisation. Lorsqu'ils découvrent un territoire qui leur plaît, parce qu'il est peu peuplé, parce qu'il est riche, parce que les femmes sont belles, comme j'ai dit tout à l'heure, ils essaient de s'y installer. C'est ce qui s'est produit dans le Danelaw, dont j'ai parlé tout à l'heure, en Angleterre. C'est ce qui s'est produit en Irlande du Sud, grosso modo l'Irlande catholique d'aujourd'hui. Ça, c'est les Norvégiens qui se sont installés là. C'est ce qui s'est produit en Islande, où ils se sont installés à demeure, à partir de 874. C'est ce qui s'est produit au Groenland. C'est ce qui se produira en Normandie. Et c'est, je vous en reparle si ça vous intéresse, parce que ça me ferait un trop long développement et je vois qu'il est déjà très tard. C'est ce qui s'est produit aussi en Russie. Deux mots sur la Russie. Je suis, verbe suivre en ce moment, la chronique de Nestor. Nestor était un moine de Kiev qui nous a laissé, à la fin du XIe siècle, début du XIIe, une chronique qui est un document passionnant. Il dit quelque chose comme ça. « Nous autres Slaves, nous sommes, je cite de mémoire, mais je suis sûr de ma citation, « Nous autres Slaves, nous sommes notoirement incapables de nous gouverner. » Vous n'avez pas besoin de chercher bien loin, vous n'avez qu'à vous rappeler ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années dans l'ex-Yougoslavie pour voir qu'il ne se trompait pas, Nestor, n'est-ce pas? Et nous voyons passer ces gens du Nord, Northmen, dans leurs longs bateaux, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, bien organisés, bien disciplinés, conscients de leur but et bien solidaires. Nous leur avons dit, écoutez, nous ne sommes pas capables de nous gouverner. Donnez-nous des princes qui soient capables de nous diriger. Alors les Suédois, c'est des Suédois. Ils ne se sont pas fait dire deux fois. Ils se sont d'abord installés à Novgorod, qu'ils appellent Holmgardur. Vous voyez où c'est? C'est sur la Neva, pas très loin de Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Saint-Pétersbourg qui n'existait pas. d'abord, et ensuite ils se sont installés à Kiev, qu'ils appelaient Kainugarder, vous voyez où c'est également. Ils ont constitué une principauté autour de Novgorod et une deuxième principauté autour de Kiev, peu importe les noms de ces princes. Au bout de peu de temps, les deux principautés dirigées par des Suédois ont fait alliance et ont fondé un État que vous appelez Russie. Ce sont les Vikings de l'Est qui ont donné son nom à la Russie. Pourquoi Russie ? Parce qu'ils étaient appelés par les Grecs, les Arabes et les Slaves, ils étaient appelés Russes, R-U-L-O-N-S, Russes. Alors quand même, parce que ça doit vous intéresser, je vais vous dire les théories. Pourquoi Russes ? Ou bien ils étaient roux. Ça peut renvoyer au mot roux. Il paraît, je n'y connais rien, que les Slaves et les Grecs et les Arabes ne sont pas roux. Alors ils voyaient passer ces gens qui avaient des cheveux roux, ça les aurait frappés, ils les auraient appelés, pardonnez-moi, quelque chose comme les rouquins. C'est un peu facile, hein ? Je pense plutôt qu'ils venaient littéralement la province qui subit la loi de la rame, de l'aviron. Donc ça aurait été des gens du Rousse. Ça serait plus chic comme étymologie et plus tentant. En tout cas, quoi qu'il en soit, ils étaient appelés Rousses et c'est d'après leur nom, Rousses, qu'on a baptisé la Russie. Il est hors de doute que ce soit les Scandinaves qui ont donné leur nom à la Russie. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Je fais remarquer que, ou bien ils ont colonisé, ou bien ils se sont installés dans des territoires vides, comme les Féroé, ou l'Islande, ou le Groenland, ou bien ils ont passé une sorte de modus vivendi avec les populations autochtones. Et ça, c'est un trait étonnant. Ils se sont installés dans le Donau, pour prendre des exemples qui vous soient familiers. Ils se sont installés en Normandie. En deux générations, trois au maximum, il n'y a plus de Scandinaves. Il y a des Anglais, il y a des Normands, il y a des Irlandais. La Scandinavie a disparu, sauf dans les toponymes, c'est-à-dire les noms de lieux. Et encore, on peut se battre là-dessus, ça vous intéresse, on peut parler de ça après. Le pouvoir d'adaptation, d'assimilation aux populations locales est une chose étonnante. J'espère que vous savez que ces mouvements d'émigration en provenance de Scandinavie ne se sont pas arrêtés si tôt. Les deux dernières vagues d'émigration de Scandinaves, Suédois et Norvégiens surtout, que nous connaissions dans l'histoire, datent respectivement de 1890 et de 1910. Regardez les noms, ils ont tous émigré, pour ce qu'ils appellent les États-Unis aujourd'hui, n'est-ce pas ? Regardez les Américains qui portent des noms scandinaves. Il y en a un nombre important, à commencer par un président des États-Unis comme Johnson, par exemple, qui porte un nom typiquement scandinave. Eh bien, en deux, trois générations, ils sont plus suédois, danois, norvégiens, ils sont américains, un point, c'est tout. Alors, je veux insister sur ce point de modus vivendi. Bien. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que ce ne sont pas des guerriers par définition. J'ai décrit leur tactique en commençant. Ça n'est pas une tactique de combat en race pleine. J'ai insisté aussi beaucoup sur le phénomène du mercenariat. Partout où ils ont pu s'engager, ils n'ont pas manqué l'occasion. Il me reste, vous avez encore la patience de m'écouter 2 minutes, oui ? Il me reste à faire une periodisierung, une périodisation, comme on dit en français. 250 ans, c'est long. Le phénomène viking a évidemment changé de face en 250 ans. Alors, si vous voulez, je peux décomposer ça. De 800, en gros, à 850, il y a eu une période de tâtonnement. Ils ont fait leur métier de commerçant, et c'est là qu'ils se sont aperçus du fait que, souvent, les gens ne savaient plus se défendre. Et donc, ça valait la peine de piller. De 850 à 900, le mouvement est devenu conscient. Et c'est là que se place un certain nombre de raids. Je ne suis pas en train de faire des vikings des petits saints, hein, mesdames et messieurs. Suivez-moi bien. C'était vraiment des pillards. C'était vraiment des gens qui étaient cruels. C'était vraiment des gens qui étaient capables d'exactions sanguinaires. Quoique, on a démontré que les vrais pillards de cette époque-là... Savez-vous qui c'est les vrais pillards de cette époque-là ? Non, vous ne savez pas, sortez. C'est premièrement les Hongrois. Et deuxièmement, bien sûr, les Sarrasins, c'est-à-dire les Arabes. Les Vikings viennent après, en tant que pillards, hein, j'entends, en tant que bien. Bon, alors 850-900, ils deviennent conscients de leur but, de leurs possibilités, et ils pillent vraiment, c'est là qu'il y a des grands raids organisés sous la conduite de chefs, pas des masses, mais ça existe. C'est à cette période-là qu'ils viennent mettre le siège devant Paris, par exemple, en 885, sans succès. J'ai dit tout à l'heure que chaque fois qu'ils ont été obligés de se battre en rase campagne, ils ont été battus. Mais celui qui leur a résisté remarquablement s'appelle Eudes, E-U-D-E-S, et c'est grâce à sa résistance qu'il a permis de fonder la dynastie des Capétiens, c'est-à-dire des rois de France. Et d'ailleurs, c'est presque une parenthèse, il est remarquable de dire que les Vikings auront été des fondeurs d'État, fondateurs d'empire, des fondateurs d'État, un petit peu partout. Ils ont remodelé la carte. Ils ont fait prendre conscience aux pays existants, géopolitiquement, de leur physionomie. Par exemple, c'est eux qui ont fait prendre conscience, décidément, tant que je m'arrête, aux Français que la capitale de la France, c'était Paris, et non pas Lyon, comme ça aurait pu être, comme vous le savez. C'est eux qui ont fait prendre conscience à l'Angleterre que la capitale de l'Angleterre, ça devait être Londres, et non pas York, comme ça aurait pu l'être, comme vous le savez, et ainsi de suite. À partir de 900, l'Occident, qui en a assez de ces exactions, commence à s'organiser. Il y a des exemples de souverains énergiques et intelligents, comme Alfred le Grand de Wessex, qui organise tout un système de défense pour parer à la difficulté et qui repousse les Vikings. Alors les Vikings comprennent que c'en est fini de la possibilité de piller au hasard et fructueusement. Et c'est l'époque où ils s'installent. Où ils s'installent à demeure. J'ai énuméré tout à l'heure. Danelaw, Irlande, Normandie, Islande, Groenland, Russie, etc. Je ne dis pas Sicile ni sud de l'Italie. Hein. La Sicile, c'est un phénomène, c'est un peu comme la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. C'est un phénomène qui échappe à l'histoire des Vikings. C'est un phénomène normand de Normandie. Ce n'est pas un phénomène scandinave. Bon. Ils s'installent, là, entre 900 et 980, grosso modo. Puis alors, vers 980, et sous l'exemple de l'Occident, il y a eu deux souverains danois, Svein à la barbe fourchue, Tjøgeskæg, et son fils Knut Jørgensen, Canute le Grand, qui ont vraiment conçu le projet, alors je dirais militaire, pour vous faire plaisir, ils ont vraiment conçu le projet de s'assurer l'hégémonie sur tout le nord de l'Europe, c'est-à-dire les quatre pays scandinaves plus la Grande-Bretagne. Et ils ont alors affecté des flottes gigantesques et ils ont mené à bien leur projet qui a duré 18 ans. C'est-à-dire pendant 18 ans, ils ont vraiment été rois des quatre pays scandinaves et de la Grande-Bretagne. Mais évidemment, ce n'était pas tenable. Vous n'avez qu'à regarder la carte qui est là et ajouter l'Angleterre à gauche. Vous voyez le disparate là encore de ces états-là. Alors en 1035, ils ont été obligés d'abandonner. On peut dire que le phénomène cesse vers 1035, bien que conventionnellement, à cause des séquelles, on arrête le phénomène viking, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au 14 octobre 1066, qui est la date de la bataille de Hastings. Pourquoi est-ce que le phénomène viking a cessé? Il y a deux raisons importantes. La première raison, c'est qu'autour de l'an 1000, avec une unanimité assez étonnante, le Nord s'est christianisé. Le Danemark en 960, l'Islande en 999, la Norvège en 1000 pile, et la Suède autour de 1011. Vous me direz, mais pourquoi si tard? C'était une question de politique. C'était toujours le commerce, encore le commerce. C'est parce que pour pouvoir commercer avec des chrétiens, il fallait être chrétien. Point. La deuxième raison, c'est que ces pays ont toujours eu et ont encore les yeux rivés sur ce qui se fait dans le Midi, comme ils disent, dans le Sud. Or, dans le Midi, nous étions en train de développer, depuis pas mal de temps, des États monarchiques forts, pyramidaux, avec le roi à la tête, et toute une hiérarchie dûment organisée et codifiée ensuite. Un peu à l'exemple, sur le modèle, de ce que faisait l'Église catholique. Alors, les souverains intelligents de Scandinavie, le Danois s'appelle Harald à la dent bleue, Harald Urbrauten. Le Norvégien s'appelle Saint Olaf, Olaver Haraldsson. Le Suédois s'appelle Olaver Svetkonungur, le roi des impôts. ils ont décidé progressivement d'adopter le même système, c'est-à-dire créer des États forts, hiérarchiser, le roi à la tête, etc. Ce qui était la négation même de la réalité scandinave ancienne. Le viking est un homme libre. C'est un homme qui n'obéit à personne, on peut dire. Il a certainement des comptes à rendre à ses camarades de combat, un thème que j'ai évoqué tout à l'heure, mais il se moque du roi. D'ailleurs, le roi n'a pas le même sens du tout chez eux que chez nous. C'est un autre terme et c'est une autre exception. Mais à partir du moment où, rentrant au port avec son butin, il était obligé de céder sous forme d'impôt un pourcentage donné au roi, ces entreprises n'avaient plus grand sens. Donc, d'une part. D'autre part, puisque le voilà chrétien, il n'avait plus le droit de faire le commerce des esclaves. Oh, parce que l'Église ne badinait pas avec cette chose-là. Or, les esclaves étaient de loin sa marchandise principale. Donc, il a été dépossédé, tout simplement. Puis, il y a un troisième facteur qui est important. J'ai dit que c'était des commerçants de luxe qui pratiquaient un commerce de luxe. Les frisons viennent de mettre au point, autour de 1050, un gros bateau pansu qui s'appelle la Cogue, C-O-G-U-E en français, qui est capable de transporter des marchandises pondéreuses en grande quantité. Alors, voyez, il y a eu dépossession du viking dans tous les domaines. Sur le plan commercial, qui est le principal, sur le plan politique, j'ai parlé des organisations pyramidales, et sur le plan pratique, il n'a plus un bateau qui rende service là où il sévit. Donc le phénomène meurt autour de sa belle mort, autour de 1050. Il reste à dire une chose avant de vous laisser, en vous remerciant de la qualité de votre attention, mesdames et messieurs. Il reste une chose à dire. Un phénomène mené par une population tellement limitée en nombre et qui dure 250 ans, n'est pas pensable comme une sorte de chose qui aurait surgi ex abrupto dans le ciel de l'histoire, qui serait imposée à force, une sorte de météore historique. On n'a pas d'exemple de ça. Pour que ces hommes et ces femmes aient été capables de tenir l'avant de la scène historique pendant 2 siècles et demi, il fallait qu'ils eussent, merci, derrière eux, une culture et une civilisation dignes de ce nom. Et de fait, c'est une de mes fiertés que d'avoir été en France le grand divulgateur de ces choses-là. Il y avait une culture scandinave ancienne de premier ordre sur le plan social, sur le plan juridique, sur le plan artistique, sur le plan littéraire, sur le plan économique, qui seule a permis la suscitation de ce phénomène et son maintien pendant 2 siècles et demi. Donc, étudier le phénomène viking revient finalement à étudier la culture et la civilisation qui l'ont provoqué. Merci. Voilà, alors si vous n'êtes pas au bord des larmes, je veux bien essayer de répondre à vos questions.
Comme d'habitude, nous allons passer aux questions.
Vous avez parlé des légendes qui se sont constituées au XIIIe et au XIVe siècle et qui avaient les vikings comme objet, alors que ces légendes sont apparues bien après la fin des vikings. Vous veniez de dire que c'est 1050 qui constitue cette date de fin. Alors, pour quelles raisons et pourquoi sont apparues si tard, enfin tout au moins 2 siècles après, ces légendes? Est-ce qu'il y avait un but à cela ou est-ce qu'il y a un simple hasard? Et quelle déformation ou amplification a pu permettre de faire atterrir au cœur de nos siècles récents cette conception du viking?
Alors, il y a deux choses dans votre question, hein. La première, c'est que les Scandinaves n'avaient pas d'écriture. C'est-à-dire, si, ils avaient une écriture qui s'appelle les runes. Vous avez déjà vu ça. C'est une écriture épigraphique qui se grave avec un poinçon sur un support dur, du bois, de la pierre, de l'os, cuir, etc. On ne peut pas rédiger de texte long avec ça. Quand ils ont été christianisés autour de l'an 1000, les clercs n'ont pas seulement apporté la religion chrétienne, ils ont aussi apporté l'écriture latine, celle que vous pratiquez, la minuscule carolingienne. Et pas seulement leur écriture, ils ont apporté le trésor de leur littérature, pas seulement la littérature biblique, mais les auteurs grecs et latins classiques qu'ils véhiculaient. Alors d'un seul coup, les Scandinaves, et surtout les Islandais qui se sont fait les spécialistes de la question, ont découvert qu'ils pouvaient consigner par écrit leurs vieilles traditions. C'est clair. Sans les vieilles traditions, elles dataient de 2 siècles au moins. Alors, évidemment, dans les longues nuits, dans les veillées, etc., ils se véhiculaient, selon ce qu'on appelle la tradition orale, se véhiculaient, bien sûr, des récits qui parlaient de tel ancêtre qui avait fait ceci, qui avait fait cela, d'une part. D'autre part, les Vikings ont eu des observateurs étrangers, en nombre. Des Latins, des Grecs, des Arabes, comme j'ai dit, des Anglo-Saxons, des Francs, des Allemands continentaux, qui nous ont parlé peu ou prou d'eux, plutôt peu que prou. Alors, en recoupant ces deux types de sources, on peut arriver à des, je dis pas certitudes, mais à des vraisemblances tout de même. Mais il faut se méfier parce que les sagas, c'est sans doute aux sagas que vous pensez, sont des textes écrits sur des modèles historiographiques latins, donc de l'Antiquité, et sur des modèles hagiographiques. Hagiographiques sont les vies des saints du Moyen-Âge. Alors, comme toujours, stat in medio virtus, hein, la vérité se tient au milieu. Si vous arrivez à débarrasser tout l'apparat historiographique ancien et tout l'apparat hagiographique médiéval, vous tombez sur un noyau dur qui, quand même, doit pouvoir vous livrer une manière de réalité, quoi. Mais les sagas ne sont pas des documents historiques. On ne peut avoir de certitude qu'en faisant des recoupements gigantesques, c'est le travail de moine, c'est le cas de le dire, de toutes les sources dont nous disposons, simplement.
En conclusion, vous avez ouvert la porte, en somme, à une autre conférence, parce que vous nous laissez sur notre faim. Nous avons terriblement envie de connaître cette civilisation qui a précédé.
Oui, mais je suis un vieil homme, madame, il faut que je meure maintenant. Non, il est clair que le phénomène viking est à la mode pour des raisons qui ne m'échappent pas toutes, mais que si vous voulez le pénétrer réellement, il faut que vous étudiez la civilisation, c'est par là que j'ai terminé, hein, qui l'a rendu possible. Sans ça, vous allez bavarder et délirer.
Et alors justement, comme c'est un ensemble quand même tout de même assez vaste et avec des peuples différents, qu'est-ce qui unit cette civilisation qui a porté le phénomène viking? Quels sont les grands traits qui peuvent être entre les Danois, les Norvégiens,
les Scandinaves sont des Germains. Vous savez ce que c'est que les Indo-Européens. Il y a une famille des Indo-Européens que nous appelons Germains. Les Indo-Européens ont eu leur foyer initial sans doute 1800 ans avant Jésus-Christ, peut-être un peu plus tôt encore, 2000 ans avant Jésus-Christ, dans le Transcaucase, dans la région qui s'appelle Tchétchénie aujourd'hui, chez les Ossètes, les Oubiques, etc. Ils se sont ramifiés en diverses branches. Une de ces branches est remontée par le Haut Altaï, vous voyez, en Sibérie, et est arrivée en Germanie. Alors, cette variante, qui s'appelle la branche germanique, s'est divisée en trois. Il y a une branche qui est restée dans l'Est, que l'on appelle la branche gothique, sans H, gothique. L'H, c'est pour l'art, hein. Qui s'est établi donc dans l'est de ce qui serait aujourd'hui l'Allemagne et jusqu'à la mer Noire, et qui a disparu autour du 3e siècle de notre ère. Il y a une branche occidentale qui a donné naissance aux Allemands, aux Néerlandais et aux Anglo-Saxons, et puis il y a une branche septentrionale qui a donné naissance aux Danois, Suédois, Norvégiens et ensuite aux Islandais. Alors, ce qu'on appelle viking, c'est les quatre expression de la branche septentrionale des Germains. Voilà. Ils parlent des langues, une langue. Ils en parlaient, c'était une cohine, hein, au Moyen-Âge, à l'époque viking, c'est-à-dire ils parlaient tous la même langue, à peu de choses près, avec des variantes dialectales, bien entendu. Et ils s'entrecomprenaient très très bien. Les différences ont surgi par la suite. Et ils relevaient tous de la même civilisation, de la même culture, ça c'est sûr. Non, premièrement, c'est pas des gros bateaux. J'ai insisté là-dessus. Ensuite, vous partez d'Oslo, vous traversez toute la Baltique, vous arrivez à l'embouchure de la Neva, là où se trouve Saint-Pétersbourg aujourd'hui, qui n'existait pas, et par tout le lacis des fleuves et des lacs russes, vous descendez à Byzance. On a refait ça N fois depuis. C'était pas des gros bateaux, monsieur. Très bonne question, d'ailleurs. Vous savez, on ne va pas dire tout quand on bavarde à une heure et demie. La ville de Copenhague porte un nom qui, en vieux norrois, est Kaupmannahavn, c'est-à-dire le port des marchands. Ce que veut dire encore aujourd'hui Kaupmannahavn, n'est-ce pas ? C'est le même sens. Il me semble que ça suffit pour établir la nature mercantile de cette culture et de cette civilisation-là. C'était pas une grosse ville à l'époque, monsieur. Hein. D'ailleurs, il n'y avait pas de grosse ville dans le nord à l'époque, il faut défaire ça. De votre idée, même en France, la grosse ville, c'est un phénomène ultra moderne, c'est pas vieux. Et sa position est centrale à tous égards. Copenhague, elle est dans l'île d'Ozéland, comme vous savez, elle est centrale, et elle était centrale pour tous les mouvements de navigation maritime, ouest, est ou est, ouest, qui se dessinaient à partir de ce qui est la Suède, ou de la Norvège, ou ailleurs. Donc, une sorte de plaque tournante, si vous voulez. Mais merci pour la question, c'est remarquable que une des villes importantes se soit appelée le port des marchands. Alors oui, bonne question. La Finlande n'est pas un pays germanique. La Finlande parle une langue qui n'a rien à voir avec nos langues à nous. Si vous vous promenez en Finlande, que je sois pendu si vous comprenez un mot. Ils parlent le même type de langue que l'Estonie ou que la Hongrie. Ce sont des langues dites agglutinantes. Les spécialistes se battent pour savoir si c'est des langues indo-européennes, moi je crois pas. Donc ça échappe totalement au phénomène viking. Sinon que les vikings y passaient, bien entendu, et commerçaient avec les Finlandais comme avec les autres. Mais il n'y a pas de Finnois viking, ça n'existe pas. Oh, cher ami, je vais faire mon pédant là. Il y a dans la mythologie nordique ancienne une grande déesse qui est la déesse de l'hiver, qui est la déesse des raquettes et qui s'appelle Skadi. Alors il y a deux étymologies possibles. Ou bien en vieux norrois, en vieux scandinave, Scandinavie se dit Skadin Oya. S-K-A-D-I-N, plus loin, Oya. A-U-J-A. Alors vous pouvez comprendre Skadin comme allemand Schad. Skada pour Svenska, le tort, le dommage. Et vous savez que le passage du Sund et du Belt entre le Danemark et la Suède a toujours été un passage extrêmement dangereux, aujourd'hui encore, pour les navires. Donc, et comme Oya donne logiquement Ey, E-Y, qui est l'île, la Scandinavie serait. Toute l'Antiquité a considéré que la Scandinavie était une île. Scandia Insula. Disent des gens comme Pline l'Ancien ou Ptolémée, etc. Alors, ils ont considéré que la Scandinavie, c'était l'île des dangers, l'île des périls. C'est une étymologie possible. Maintenant, on peut interpréter Oya comme le mot Ey, donc E-Y, comme la bonne chance, la tutelle, la protection. Ça existe. Et on peut partir du nom de la déesse Skadi. Skadin Oya, ce serait le territoire qui bénéficierait de la tutelle de la déesse Skadi. Vous choisissez. En bon jésuite que je suis, j'ai pas d'opinion sur la question. Je pencherais quand même plutôt pour Skadi. Mais c'est ça la déformation professionnelle, ou le gâtisme précoce que vous voulez, ça revient au même. Non, pas nécessairement, monsieur. La civilisation consiste à se plier à des règles de vie qui ne sont pas nécessairement des règles de hiérarchie. Le viking à terre, sur place, il obéissait à une sorte de modus vivendi ou de consensus. Il y avait un type de vie en société qui consistait à respecter l'autre, par exemple, ou à obéir aux mêmes lois. Mais c'était pas vertical. C'est-à-dire, il n'y avait pas de grand chef qui donnait des ordres et ainsi de suite. C'était de style horizontal. C'était vraiment démocratique dans un sens, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas. Il n'y a en tout cas pas à voir de contradiction entre la discipline qui règne quand il est en expédition et la discipline qui règne quand il est chez lui. L'une et l'autre ressortissent à la même analyse de la réalité, quoi. Pas de chef, d'accord, mais pas d'anarchie.
Et justement, quand les Vikings se sont installés dans des territoires relativement vierge où ils ont pu instituer une forme de gouvernement. Je pense peut-être à l'Islande. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel modèle, justement
C'est une bonne question. Non, justement, l'exemple est excellent. Ils s'installent en Islande. Ils se donnent un parlement qui s'appelle Thing ou Althing. Vous avez lu ça dans les livres, n'est-ce pas ? Qui est un parlement judiciaire et législatif, pas exécutif. Il faut que vous essayiez de comprendre ça, parce que c'est inadmissible, surtout pour un Français. Entre 874 et 1264, l'Islande n'a pas eu de roi, pas eu de chef, pas eu de prince, pas eu d'armée, pas eu de milice, pas eu de police. Vous vous rendez compte, mes bien chers compatriotes ? Presque quatre siècles, sans roi, sans police, sans armée, sans milice. Alors, comment ça a marché ? Il y avait 19 grandes familles qui ont convenu entre elles de maintenir une sorte d'équilibre, de status quo. Donc, elles ont cohabité plutôt bien que mal, mais vaille que vaille quand même, en s'efforçant de respecter les intérêts les unes des autres, jusqu'à ce que, bien sûr, la situation se dégrade. Mais pendant au moins 350 ans, c'est comme ça. Je dois préciser d'ailleurs que je proteste toujours quand je lis que l'Islande était une démocratie ou une république. Non, mesdames et messieurs, ça va, vous êtes bien assis ? L'Islande était une oligarchie plutocratique. Ou si vous préférez, c'était une plutocratie oligarchique. Ça veut dire qu'un petit nombre d'individus commandaient, enfin, avaient pouvoir sur les autres. Et ce petit nombre avait pouvoir, oligarchie, avait pouvoir parce qu'il était riche. Alors, ne vous abusez pas, l'Islande, qui est un modèle absolument extraordinaire, je viens de parler des 19 familles, c'était les 19 familles riches de l'île, qui avaient émigré de Norvège et qui s'étaient installées là. Elles avaient le pouvoir indistinctement et horizontalement parce qu'elles étaient riches. Mais ce n'était pas un pouvoir qui venait de droit divin ou qui venait d'une tradition sacrée. C'est ainsi. Il fallait être riche. Quand il y en a un qui, pour une raison ou pour une autre, perdait sa richesse, il était destitué. Tout simplement, il sort de l'histoire, il sort de la saga, comme disait le texte. L'art viking s'est plutôt exercé dans l'ornementation. C'est des ornementalistes. Vous êtes de la spécialité ou quoi ? Ah non. C'est pas des grands créateurs, c'est pas des grands architectes, c'est plutôt des ornementalistes, c'est-à-dire ils décoraient au maximum, ils poussaient les possibilités d'expression du matériau qu'ils travaillaient, le bois, le métal, précieux notamment, jusque dans ses dernières limites, mais c'est pas des grands créateurs. Leur architecture ne vaut pas cher. Faut dire qu'il fallait qu'ils se défendent contre le froid, contre les intempéries, la neige, tout ça. Ça ne prête pas à la réalisation de prouesses architecturales. Faudra attendre plus tard. La fameuse église en bois de boue de Norvège, Stavkirke, que vous avez peut-être vu, sont des pures merveilles. Mais ça, c'est très nettement post-viking. Non, l'architecture de viking, j'ai rien à en dire, parce qu'il n'y a rien à en dire, je crois. À Bygdøy, à côté d'Oslo. Oui. Les deux sont authentiques. Mais oui, j'ai pas l'habitude de raconter des histoires. Oui, et le plus grand que l'on a trouvé se situe à Roskilde, au Danemark. On en a exhumé 5, là, Roskilde. Le plus long fait 37 mètres. C'est-à-dire, c'est vraiment pas des grands bateaux. Hein. D'ailleurs, les deux qui sont à Oslo, que vous avez vu, n'étaient pas des vrais bateaux. C'était des bateaux tombes. Les grands, les très grands de ce monde, hommes ou femmes, se faisaient volontiers enterrer dans des bateaux auxquels on mettait le feu ou bien qu'on inhumait. Alors c'est le cas des deux qu'on a trouvés, l'un à Augsberg et l'autre à Gokstad. Mais ils étaient capables de naviguer quand même. Mais c'était pas vraiment des bateaux navigants. Non, absolument pas. Ils s'en allaient. L'équipage voyant, c'était 20 à 30 personnes. Des hommes jeunes, des femmes non. La vie était beaucoup trop rude, comment aurait-il. Lorsqu'ils s'embarquaient pour aller coloniser, alors là d'accord, ils emmenaient les femmes, les enfants, un peu de bétail, des choses comme ça. Mais seulement dans ce cas-là, pour faire leurs expéditions mercantiles, non, jamais. Ils allaient faire leur collecte d'ambre, bijoux, fourrures, etc. à la belle saison. Une expédition viking, ça démarre début avril dans les meilleurs cas, et ça se termine début septembre dans les meilleurs cas. Alors là-dedans, vous incluez les 2-3 mois de collecte de matériaux, et puis les 2-3 mois de vraie expédition. Hein. Non, non, ce n'est pas possible autrement. Toutes les civilisations maritimes ont commencé par fabriquer des bateaux de ce style, grosso modo symétriques. Enfin, le modèle auquel vous pourriez songer, c'est les Philistins, par exemple, n'est-ce pas? Ou bien nos Basques, à nous, avaient des bateaux comme ça. Pour des raisons d'adaptation à la mer, tout simplement, n'est-ce pas? Ensuite, nos bateaux à la moderne, rigides et droits, ont surgi beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il y a une influence des bateaux méditerranéens sur les bateaux scandinaves. C'est un trait commun à toutes les civilisations, ça. Je commence à essayer d'apprivoiser la mer, je fabrique un bateau symétrique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord l'argent haché. Haché en 10 morceaux et qui pèse. Et il y a des unités de poids. Sinon, ils avaient une sorte de modus vivendi d'échange. 2 dirhams contre un penny anglo-saxon et ainsi de suite. Mais là-dessus, on est mal documenté parce que visiblement, ça se faisait au poids, de toute façon. Visiblement, c'est plutôt une affaire de consortium, de modus vivendi que de codification. Eh bien, je prends. Vous avez un beau bracelet d'argent, là. C'est dommage. Je sors ma hachette exprès et je la coupe en tout petites parcelles et ça fait des morceaux d'argent. Et voilà. Et je pèse et ça marche au poids. Et ils avaient un mot pour ça. Hacksilver, argent haché. Si. Vers la fin du phénomène, quelques rois, notamment Saint Olaf, qui est mort en 1030, ont frappé monnaie, à l'image de ce qui se faisait ailleurs en Occident, mais seulement vers la fin du phénomène. Et à l'imitation des Anglais, de tout ce que vous voudrez. Oui, s'il vous plaît, monsieur.
Est-ce que vous pouvez réexpliquer un petit peu pourquoi elle s'est éteinte, la civilisation viking, en fait?
Pourquoi
elle s'est éteinte vers la fin du 11e?
Ah, la civilisation ne s'est pas éteinte. Elle a donné naissance aux civilisations scandinaves actuelles. Mais le phénomène viking s'est éteint, je vous l'ai dit, à cause de la christianisation, à cause de la concurrence frisonne et à cause de l'exemple de hiérarchisation de l'Église.
Et est-ce qu'on peut penser aussi qu'il y a une réouverture en fait de la Méditerranée?
Je comprends pas.
Une réouverture de la Méditerranée, en fait.
Non, non. Les croisades, c'est bien après. Le dernier viking est mort quand la première croisade commence. Hein. Non, non, non. Ils n'ont pas été. Les Scandinaves seront de grands participants aux croisades, mais ce ne sont plus des vikings. Hein. Ce phénomène Non, non, il faut dissocier les deux phénomènes. On a essayé ça. Et ça ne donne rien. Non. De toute façon, un des résultats des croisades, ça a été de faire connaître l'Orient à l'Occident. Mais les Vikings les connaissaient depuis bien longtemps. Ils n'ont pas fait de découverte là-bas, si vous voulez, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui. Surtout des termes de navigation. Un pourcentage important. J'ai une élève qui s'appelle Elisabeth Riedel, R-I-D-E-L. Qui a écrit des ouvrages intéressants sur la question. Elle est spécialiste d'art nautique, si j'ose dire. Et elle a fait des listes dans ses ouvrages, j'en parlerai tout à l'heure, si vous voulez. Il n'y a guère que dans le domaine de la navigation. Mais presque tous nos termes techniques de navigation sont des termes scandinaves. Le hauban, la hune, la bite, les fesses, tous les termes qui concernent la configuration d'un bateau. Les vergues, les ris, c'est des termes scandinaves. Ils ont appris à naviguer à tout l'Occident, à naviguer à leur façon. Hein. C'est une bonne question ça. Ils pêchaient, mais avec le même bateau. Mais, ils ne s'en allaient pas en expédition pour pêcher. Ils pêchaient quand ils étaient chez eux. Et comme vous savez, c'était des mers incroyablement poissonneuses. Elles l'étaient encore il y a que quelques décennies. On est en train de les détruire. Mais c'est bien dommage. Il nous est arrivé à ma femme et moi de faire des espèces de pêches miraculeuses du côté de Tromsø, là, n'est-ce pas? C'est fini maintenant. On est en train de tuer ça comme toute la vie sur la Terre. Alors, ils pêchaient, certes, mais de façon artisanale. Le bateau, c'était pour les expéditions, c'était pas pour la pêche. Pour la pêche, ils avaient des barques vulgaires, qu'ils ont toujours, d'ailleurs. Si vous les prenez dans l'extrême nord de la Norvège, ils les conservent pieusement et ils s'en servent encore à des fins pieuses, tout simplement. Oui, non. C'était pas des agriculteurs, sauf, comme j'ai dit tout à l'heure en commençant, dans le sud du Danemark. Il y a deux seules régions scandinaves qui se prêtent un peu à la culture. C'est le sud du Jutland, là. Et puis la province s'appelle Jæren, en dessous du mot Havrsfjärður, là, vous voyez, en Norvège. Ça fait très peu de choses sur le plan statistique. C'est les deux seules régions. En fait, ça faisait partie des marchandises qu'ils allaient chercher ou piller à l'étranger, ça. Ils cultivaient aussi une espèce de blé dur avec lequel ils fabriquaient des galettes. Je ne sais pas si vous êtes amateur de Vasa bröd. Vasa. Cette espèce de pain croustillant très dur. C'est ça qu'ils mangeaient. C'était leur pain quotidien. Oui. Ah, élevage, oui. Il y a des pâturages, oui. Notamment des moutons. Madame ? Oui, ce n'est pas une mauvaise question, parce que les Grecs étaient dans une mer fermée. Ça s'appelle la Méditerranée. Alors que les Scandinaves ont tout l'Atlantique devant eux. Et on peut facilement passer de la Baltique à l'Atlantique. Je crois que c'est ça l'explication. Hein. Je comprends, c'est aussi bête que ça, si vous voulez. Ah non, 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 non. Les Vikings sont des Germains. Il n'y a pas de récupération. Ah oui, absolument. Alors, il représente la branche septentrionale des Germains, qui a développé sa culture propre, qui est très, très apparentée à la culture des Germains continentaux ou des Germains orientaux, c'est-à-dire de Gaulle, dans la mesure où on la connaît. Mais ce sont des Germains à part entière. Ça, un petit peu comme si vous vouliez opposer les gens du nord de la France aux gens du Midi ou aux Basques. Hein, c'est... Non, pas aux Basques, aux Aquitains, disons. Hein. C'est pas... Il n'y a que des nuances, mais c'est la même chose. Non, c'est une bonne question. Le seul instrument de musique que l'on ait trouvé, ça s'appelle l'our. En français, L-O-U-R. C'est une espèce de trompe, grande trompe en bronze, terminée par... ça ressemble un peu à Alpenhorn, suisse, si vous voyez. Quand vous soufflez là-dedans, vous avez vraiment l'impression d'entendre une vache beugler, n'est-ce pas ? Je ne vois pas ce qu'ils pouvaient trouver de musical à ce truc-là, moi, mais enfin, voilà, c'est comme ça. C'est le seul instrument qu'ils avaient.